Radio Jenny, la plus rebelle des radios.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, il est mercredi 20 mai, il est 19h passé de 5 minutes, c'est l'heure du Canu Info.
Ce soir, ça va être de la chronique, j'aime mieux vous dire. On va avoir une petite info sur Pôle emploi qui accentue le contrôle des demandeurs d'emploi plutôt que de trouver du taf. Et puis après, on aura la chronique de Laurent Delabouze, la chronique Il faut que ça sache, et enfin la grosse chronique, le fil d'Ariane, la chronique des avocates qui nous explique le droit pour les nazes. Les nazes, c'est nous. J'attaque avec problème. Alors, le conseil d'administration...
Alors, il faut pas du tout que tu touches ton micro parce que ça grésille à fond. Merci.
Ok. Le conseil d'administration de Pôle emploi a approuvé aujourd'hui le projet de séparer la mission d'accompagnement des chômeurs de celle du contrôle de leur recherche. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était les mêmes gens qui étaient censés vous recevoir pour parler de comment vous alliez faire pour retrouver du boulot et regarder si vous cherchiez réellement du boulot. Dans la pratique, il faut dire que c'est vrai qu'ils étaient pas massivement très chiants là-dessus, disons. En tout cas, ce dispositif de séparer les deux missions. Ah ouais, moi c'est ça, mon écran, c'est pas qu'une histoire de le toucher ou pas. Qu'est-ce que ça donne si je parle dans celui-là?
C'est vachement mieux.
Ah ouais? Ok. Les gens de la technique qui nous écoutent, le micro noir est pourri. Et donc j'en étais où? J'en étais au dispositif donc de séparer la mission d'accompagnement des chômeurs de celle du contrôle des chômeurs. Ce dispositif est déjà expérimenté dans 3 régions et est censé empêcher les demandeurs d'emploi de, ouvrir les guillemets, c'est issu d'un document interne à Pôle emploi, de s'enquister dans le chômage de longue durée. Et donc pour généraliser ce contrôle, la direction compte mobiliser 200 postes à équivalent temps plein qui seront dédiés que à ça. Le déploiement de ces postes doit s'effectuer entre août et octobre. Le dispositif, c'est dans un document qui a été transmis au syndicat de Pôle emploi la semaine dernière. La phrase dit « Le dispositif naît et ne sera assorti d'aucun objectif en termes de nombre de contrôles et ou de nombre de radiations ». Alors bon, il faut quand même dire que dans la procédure telle qu'elle est prévue, décrite et tout ça, le truc finit quand même par une radiation si on constate que le demandeur d'emploi ne cherche pas réellement activement du boulot. Sauf que le document prend bien soin de dire oh là non c'est pas ça. Il faut savoir qu'en l'occurrence c'est le conseil d'administration qui vient de valider le truc, mais c'est quelque chose qui sort du gouvernement, hein. C'est le ministre du Travail François Rebsamen qui a la manœuvre sur ce coup-là, et donc le gouvernement prend des précautions de communication, bien sûr. Parce qu'il faut quand même se souvenir que les socialos nous ont promis depuis le début du mandat de Hollande d'inverser la fameuse courbe du chômage et que c'est pas comme s'ils étaient arrivés le moins du monde depuis. Alors bien sûr, ça n'aide pas à leur crédibilité. Et puis la crédibilité, c'est pas comme s'ils en avaient à revendre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se vengent sur les chômeurs. Pas en leur créant des emplois, hein, ce qui serait déjà une sorte de vengeance. Mais plutôt en trouvant des moyens pour les radier. Et puis comme ça, non seulement ça leur permet de passer un peu leur bile, mais surtout ça va aussi permettre de faire disparaître les gens qui seront radiés des statistiques des fameux demandeurs d'emploi de catégorie A, donc les seuls chiffres qui sont en réalité médiatisés. À la place d'être demandeurs d'emploi de catégorie A, qu'est-ce qu'ils seront? Ils seront des rien du tout, et ça, il n'y a pas vraiment de statistiques. Alors quand même pour la blague là, selon Rebsamen, donc qui parle des 3 régions où ça a été expérimenté, les expérimentations ont montré que y compris les chômeurs qui avaient abandonné leur recherche étaient satisfaits d'avoir eu des contacts pour se relancer. Donc ils étaient hyper contents qu'on vienne les chercher et les fliquer et leur dire sors de ton canapé et puis va chercher du boulot. Et en fait, ils étaient tellement satisfaits que, comme on l'apprend dans un article du Monde, pour mettre en place ce nouveau truc, des mesures de sécurité particulières sont prévues pour les agents de contrôle qui seront sensibilisés à la prévention des situations d'agression.
Comme des cours de kung-fu.
Le Pôle emploi préconise même qu'ils ne gèrent pas les demandeurs d'emploi de la commune où ils vivent, pour pas risquer de les croiser en sortant de chez eux, ni de la zone de compétence de l'agence d'où ils viennent, s'ils étaient conseillés. Voilà.
Et il n'y a pas de générique.
Okay. Oh, mais c'est la misère technique aujourd'hui. Bienvenue sur Radio Canu. Et voici la chronique de Laurent de la Bouze.
Merci. Alors, bonsoir. Ça marche ? Bon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit point sur la réforme des collèges initiée par le gouvernement. Alors, loin de moi le désir de vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette réforme. Celle-ci concerne les profs. Et c'est leur mode de fonctionnement d'expliquer la vie à tout le monde. On a tous été à l'école, même si en regardant autour de moi, je me rends bien compte qu'il n'y a pas dû y avoir que des flèches. Hein.
Oui.
On s'attend donc bien à ce que cette réforme nous soit expliquée et réexpliquée. De là à vraiment la comprendre, comme je le disais, on a tous été à l'école. En tout cas, on peut faire confiance au gouvernement pour se douter qu'elle ne doit pas être terrible. Et puis la seule réforme qui serait plus utile que de pisser contre le vent, ce serait une réforme qui abolirait les rapports de domination prof-élève et dont le but ne serait pas de faire rentrer dans le rang d'une société capitaliste et réactionnaire la majorité des enfants. Étant donné que cela serait contraire aux intérêts de tout gouvernement normalement constitué, je peux affirmer, et sans connaître aucune des mesures, je peux affirmer que cette réforme, c'est de la merde. Hier mardi, les profs ont donc fait grève pour essayer de faire marche arrière au gouvernement. Ce qui m'a interpellé, c'est les chiffres du nombre de grévistes. En effet, les syndicats exposaient le chiffre de 50% de grévistes, tandis que le ministère, lui, parlait de 25%. C'est le même genre d'écart à mon travail lorsqu'il y a une grève entre les chiffres des syndicats et ceux de la direction. Ce qu'il faut savoir, c'est que les syndicats calculent leur pourcentage sur la base des personnels qui devaient effectivement travailler le jour de la grève. Tandis que le ministère compte comme non-grévistes tous les personnels en congé maladie, dépression, longue maladie, congé maternité ou ceux suspendus pour raisons disciplinaires. Ça, chez les profs, il y en a. Alcoolisme, stupéfiants, violence, pédophilie. Enfin, vous savez, on a tous été à l'école. Bref, espérons que les profs ne lâchent pas et que le gouvernement ne lâche pas non plus. Que la grève dure et que par ces beaux jours de printemps, les élèves puissent profiter de la vie au lieu d'écouter des conneries. Ainsi, ils auraient peut-être le temps d'écouter ou de réécouter les vieux classiques du rap, comme Assassin, qui chantait « Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue ». Chanson qui est aujourd'hui encore parfaitement d'actualité et qu'on pourrait même revisiter avec « La dernière ministre de la justice qu'on a eue avait plus de vis que le dealer de ma rue ». Je veux parler ici de Rachida Dati. Extrêmement remontée, suite à l'invalidation par la Cour des comptes des 190 000 euros de budget de communication de son ancien cabinet ministériel. L'ex-ministre la plus fashion du gouvernement ne supporte plus d'être montrée du doigt à cause de sa passion pour la haute couture et déclare sur un ton plus qu'agressif « Trop, c'est trop. On veut me faire passer pour quelqu'un de bling-bling, stop !» Il m'est arrivé à une ministre anglaise de la justice d'offrir au titre du ministère un foulard Hermès, vous avez raison. Bon, mais c'est comme ça pour tous les autres ministères. Elle a raison, Rachida Dati. Faut remettre les points sur les i. À chacun son boulot et les prisonniers seront bien gardés. Sauf que l'Angleterre, pays peut-être aussi sexiste que nous, n'a jusqu'à ce jour jamais eu aucune femme qui a occupé le poste de ministre de la Justice. On s'attend évidemment à ce qu'elle n'ait pas énormément de problèmes suite à cette affaire. À titre de comparaison, on a assisté lundi à la relaxe définitive des deux policiers concernant leur responsabilité dans la mort de Ziyad Ebouna après 10 ans de procédure. Petit rappel rapide des faits. Ziyad Ebouna, deux enfants qui n'avaient rien commis d'illégal, se sont enfuis en courant en voyant la police, sûrement par peur d'un contrôle d'identité musclé, et se sont réfugiés dans un transformateur électrique et sont morts électrocutés, sans que les policiers ne fassent rien pour les sortir de là. Même s'il serait extrêmement utile d'en parler encore et encore, je ne vais pas revenir ce soir sur les détails de ces morts atroces, de la bavure policière et de l'horrible injustice. Je vais plutôt vous faire part de la réaction de l'ancien ministre, d'un ancien ministre du gouvernement et actuel maire de Nice, Christian Estrosi. Après ses déclarations sur une cinquième colonne islamiste en France faisant partie de la guerre mondiale contre la civilisation judéo-chrétienne, il a dû s'en prendre une dans la tête, lui, quand il était petit, de colonne. Christian Estrosi, l'homme de l'UMP, capable d'attaquer Jean-Marie Le Pen par la droite, l'homme qui dans un autre temps aurait pu travailler pour Goebbels s'il n'avait pas été aussi con, l'homme qui paraît-il est arrivé troisième au dernier concours d'intelligence de l'UMP derrière Nadine Morano et un poisson rouge, Christian Estrosi donc a fait part de son émotion après le verdict de l'affaire Ziyad Ebouna et la relaxe des deux policiers. Quand le journaliste d'ITL lui a demandé ce que lui inspirait ce jugement, voilà ce qu'il a répondu. Je pense aux policiers qui pendant 10 ans ont souffert avec leur famille d'avoir été dans la situation où ils ont été et d'avoir été aussi peu soutenus. 10 ans que ces malheureux policiers sont mis en examen. Bon, je me permets de rajouter vite fait, effectivement, il sait à quel point c'est dur d'être mis en examen, s'étant retrouvé lui-même et plus souvent qu'à son tour dans la même situation. Quand le journaliste, quand même, lui demande son sentiment sur la mort des 2 enfants et la tristesse des familles, celui-ci répond. Les familles n'ont qu'à éduquer leurs enfants et faire en sorte qu'ils ne soient pas des délinquants. Là, le journaliste intervient en disant qu'il n'y a aucune preuve que ces 2 enfants aient fait quoi que ce soit d'illégal et qu'ils n'étaient apparemment pas des délinquants. Et là, Estrosi s'énerve et déclare. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Ils étaient bien en excès de vitesse.
Oh, mon Dieu.
Oh, alors, non, mais... alors, je rappelle encore... <C'est horrible. rire> Je rappelle encore une fois à Christian Estrosi que même si ses enfants n'étaient pas complètement blancs de peau à pied, les excès de vitesse sont plutôt rares. C'est sûr qu'en ce qui concerne la rapidité d'esprit, il y en a un qui risque pas l'excès de vitesse.
Écoutez... venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que tu sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine. Contre la machine à expulser. Cette chronique de Faut que ça sache, pour une fois, ne s'ouvrira pas sur les migrants en Méditerranée, mais on va changer de mer, on va parler des migrants dans le golfe du Bengale aujourd'hui. Et notamment, la population concernée s'appelle les Rohingyas, qui sont de confession musulmane et qui sont principalement installés en Birmanie et au Bangladesh, qui sont d'ailleurs pour la plupart apatrides et qui sont confrontés à une crise sanitaire depuis que le gouvernement birman a exigé au mois de février que Médecins Sans Frontières quitte l'état de Rakhine, qui est situé sur la côte ouest de la Birmanie. Voilà, depuis, il y a des centaines de personnes qui fuient ce pays où ils vivaient et qui tentent d'accéder aux richesses de la Malaisie voisine, un peu appâté par une meilleure situation possible. Il y a quelques jours, selon Le Point, il y a un truc super glauque, hein, comme d'habitude, dans Faut que ça sache, il y a des migrants qui se sont livrés à une bataille à l'intérieur d'un bateau. Coup de couteau, de machette, de barre de métal, etc. C'était sur leur bateau qui était du coup en perdition, en cours de naufrage au large de l'Indonésie. Les survivants parlent de 100 morts et donc des scènes sanglantes qui étaient, pourquoi? Eh bien, qui étaient sur ce navire surchargé et abandonné par l'équipage pour mettre la fin sur le peu de réserve de bouffe qui restait encore sur l'embarcation. Ces migrants figurent parmi les 3000 Bangladais et Rohingyas qui ont touché terre ces derniers jours sur les rivages du sud-est asiatique, après le durcissement de la politique de la Thaïlande à l'écart des trafiquants d'êtres humains. Alors comment on en est arrivé là? Eh bien parce que de nombreux navires ont été tout simplement renvoyés en mer par les gouvernements qui avoisinent les côtes et qui refusent d'accueillir ce flot de migrants. La Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie ont accueilli plus de 3000 naufragés là en quelques jours, mais elles ont refoulé aussi énormément de bateaux, s'attirant les critiques des Nations Unies et des ONG qui bossent là-bas. Des centaines du coup de bateaux seraient toujours à l'abandon dans le golfe du Bengale ou dans la mer d'Adaman. Ou Adaban, je sais pas comment on dit. Les persécutions subies en Birmanie par les Rohingyas qui sont considérées comme l'une des causes profondes de l'augmentation de ce nombre de migrants. Et alors, à l'origine, traditionnellement, un peu comme ça, le trick, c'était plutôt de passer en Thaïlande par la terre, pour ensuite rejoindre clandestinement par la route la Malaisie, qui est un peu le pays le plus prospère du coin. Mais la Thaïlande a décidé de sévir contre ce qu'ils appellent les filières de traite après la découverte, encore de la glauquerie, de charniers dans des camps de transit de migrants qui contraignaient les passeurs à chercher de nouveaux itinéraires. Du coup, c'est par la mer. Et les bateaux chargés de migrants arrivent désormais le long des côtes malaisiennes et indonésiennes, après des semaines de navigation dans des conditions de merde, comme d'habitude. Ils sont la plupart du temps abandonnés par les passeurs avant l'arrivée, sans bouffe, sans flotte, et du coup souvent contraint à sauter à la nage pour essayer de rejoindre la Terre. Alors, je tiens à rappeler quand même que les passeurs sont certes des crevures, mais que quand même leur diabolisation médiatique n'est autre que le résultat des politiques frontalières dégueulasses qui sont mises en place par les États. Ce sont les politiques de ces États qui créent l'aspect lucratif du commerce illégal du passage des frontières. Petit aparté. L'Indonésie a annoncé que des pêcheurs avaient encore secouru 426 personnes au large de ses côtes cette nuit, la nuit dernière. Là. Au total, il y a 1800 migrants qui se trouvent désormais dans le pays. Ce qui veut dire que, comme on l'a vu avant à Lampedusa, ce sont des pêcheurs qui prennent la responsabilité de sauver ces vies en l'absence de réaction des gouvernements. La Malaisie et l'Indonésie ont finalement annoncé aujourd'hui même qu'elles allaient arrêter de refouler les bateaux de migrants en perdition sur les mers de l'Asie du Sud-Est et qu'elles entendaient aider et participer à l'aide internationale qui est en train de se mettre en place là-bas.
Et maintenant, parlons de quotas de migrants. Et c'est pour dire que ce matin, quand j'écoutais la revue de presse internationale de France Culture, eh ben, j'ai trouvé pas mal. Alors, ce texte, il s'inspire fortement de cette revue de presse. Du coup, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il faut plus dire quotas, mais quote-part. Ça, ce sont les communicants de Matignon qui nous aident à éclairer les débats sur la migration, quand il y en a, sur les réfugiés. C'est avant toute chose des éclats, populistes la plupart du temps jusqu'à xénophobes, et de l'embarras toujours, et des constats affligeants et inquiétants. Donc la Commission européenne elle-même a banni ce terme de quota à la feu vert hier d'un tour de table des ministres européens à Bruxelles, en rappelant les deux objectifs d'un projet qui porte sur les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc c'est la relocalisation destinée aux pays en première ligne dans la crise migratoire actuelle et répartissant les candidats à l'asile dès leur arrivée. Et la deuxième chose, c'est la réinstallation, 20 000 places à offrir à des réfugiés dans les deux ans, 20 000 places à des réfugiés actuellement pris en charge par des pays tiers. Réinstallation rime avec recommandation, insiste la Commission. Donc, comment réagissent les différents pays? Pas question de quotas d'immigrés, a martelé hier à Berlin le président François Hollande, tout en reconnaissant qu'il faudrait une meilleure répartition des réfugiés. Hier, au Parlement européen, son homologue hongrois, qui est plus Charlie que jamais, a qualifié d'absurde la proposition de la Commission. Donc, pour rappel, le gouvernement hongrois a lancé cette semaine une consultation publique. Un courrier dont la question phare est la suivante. Êtes-vous d'accord avec le fait que les migrants menacent l'existence et l'emploi des Hongrois? Donc on peut voir que c'est une phrase habilement tournée pour une habile réponse. Et donc voilà. L'Irish Times, plus sobrement, évoque un sondage qui montre que la moitié de l'électorat irlandais est favorable à la réinstallation, pour continuer avec le jargon bruxellois, des migrants. Le directeur du Conseil de l'immigration positive. Si vous faites un sondage ailleurs au sein de l'Union européenne, vous obtiendrez une position probablement plus intransigeante. Prenons l'Espagne et l'un des grands titres, El País. Donc l'Espagne, qui au départ se montrait plus enthousiaste, a finalement critiquer le mécanisme de Bruxelles. Madrid considère que le taux de chômage devrait être mieux pris en compte dans le calcul des pourcentages de demandeurs d'asile que chaque pays doit accueillir. Vous voyez comment tous ils se balancent la balle de tennis là.
C'est une tomate même à ce niveau-là.
Ouais, c'est une tomate bien pourrie. Ouais. Les ministres des Affaires étrangères, qui ont besoin de l'autorisation officielle de l'ONU, décident de frapper le mal à la source. Le mal incarné par les passeurs qu'il s'agit de cibler, initiative encouragée par le quotidien de Francfort qui titre « Il faut à tout prix tenter une mission militaire ». C'est aussi des choses qu'on a beaucoup entendues dans la presse française. Je continue à citer. Il n'est pas recevable de taxer d'inhumain le projet d'intervention militaire. Donc, ce journal continue. Un continent qui accueille depuis des années des centaines de milliers de migrants, qui ne sont même pas tous victimes de conflits armés, agirait immoralement en essayant de mettre des bâtons dans les roues à des bandes qui n'ont aucun scrupule à gagner des millions en profitant de la détresse des autres. Il est certes bon de prendre le mal à la racine en éliminant la cause des départs dans les pays mêmes. Mais ce sera un processus de longue haleine. Donc je finis cette citation qui est vraiment...
Ils aiment les grands chiffres, tout faux en plus. Hein.
Ouais. Et le quotidien Die Welt ne croit guère au succès d'une telle mission. Je cite, aucune opération militaire contre des passeurs ne pourra empêcher que des migrants ne s'embarquent dans des canaux pneumatiques une fois que les gros navires des trafiquants auront été détruits. Canaux pneumatiques qui, du reste, sont encore plus dangereux. Et les coûts de telles opérations seront bien plus élevés que leur efficacité. Face aux flux migratoires, les Européens sont de toute façon dans un dilemme. Quoi qu'ils entreprennent, le nombre de candidats à l'immigration ne baissera pas et continuera même de croître. Du coup, voilà, c'est une note pessimiste.
Et on va à Marseille maintenant où on va parler de délit de solidarité puisqu'il y a 4 ans, c'était le 12 mars 2011, environ 200 personnes manifestaient en se rassemblant à l'appel de RESF dans l'aéroport de Marignane pour contester l'expulsion d'un père comorien, père de 3 enfants qui était scolarisé à Marseille. La détermination de cette manif a permis, et ça c'est cool, que l'expulsion soit évitée à l'époque. Et même 9 mois plus tard, la personne en question a été régularisée. Sauf que un an après, il y a 2 militants de RESF du coup qui se sont vus reprocher d'être passés au-delà des portiques de sécurité lors de cette manif. Et pour ça, la préfecture des Bouches-du-Rhône leur inflige une amende administrative de 200 euros par tête. Il y a des milliers de signataires à une pétition qui a été lancée par RESF qui s'appelait « La solidarité n'est pas un délit » qui ont demandé alors l'arrêt de la procédure. Mais l'entêtement politique a réprimé à travers ces 2 militants. Cette action de solidarité obligea RESF à... Enfin, obligea. En tout cas, ça a été la réaction d'RESF de saisir la justice. Et c'est plus de 4 ans après les faits que le tribunal administratif de Marseille a rendu audience de cette affaire ce matin à 9h30. J'imagine que comme moi, vous aimeriez en savoir le résultat, sauf que c'était pas encore trouvable juste à ce moment. Il y avait un rassemblement en tout cas en même temps et du coup suivez la presse pour avoir le rendu de cette audience.
Probablement que le jugement interviendra que d'ici 3-4 semaines je pense.
Oui, même le résultat, même juste quand ça s'était passé. Effectivement. Et maintenant, une mobilisation aussi pour dire stop aux politiques migratoires. Puisqu'on rappelle, comme on l'a déjà rappelé, que depuis 20 ans, il y a quand même 20 000 personnes qui sont mortes aux frontières de l'Europe. Du coup, pour se battre contre cette situation, il y avait plus 100 orgas françaises qui s'étaient unies au début du mois, on en avait parlé ici, pour appeler officiellement le gouvernement Hollande à mettre en œuvre et apporter sur le plan européen une autre politique migratoire, y compris le droit de quitter tout pays et le droit du réfugié politique. À ce jour, cet appel est resté lettre morte. Le gouvernement n'a pas contacté du tout, ni même reçu les organisations qui ont porté ce message, et le déploiement des forces militaires hors du territoire de l'Union européenne, ainsi que le positionnement clair de la France au sein du Conseil européen contre le dispositif de répartition des réfugiés, c'est-à-dire ces fameux quotas ou quotes-parts qui sont proposés par la Commission européenne, illustre bien la façon criante de s'aveugler et de s'entêter dans le sécuritaire de l'Union européenne et de la France. Du coup, face à cette politique de fermeture et de non-assistance à personne en danger, les orgas réunis sous le message « Des ponts, pas des murs », c'était le nom de la pétition, organisent, si vous allez à Paris, un grand rassemblement pour porter plus fort ses revendications. Ce sera vendredi 22 mai à 20h à Paris, sur le Pont des Arts, au milieu des cadenas. Mais si vous avez un week-end de 3 jours, là, ça peut être une raison d'aller à Paris, puisque sinon il n'y en a pas si souvent, finalement. Et voilà.
Le tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable.
Juridiction.
Convocation.
Assignation.
La procureur.
Amiable.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Procédation.
Incompétence.
Signalement.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
Usignation.
Flagrante.
Institution.
Amphitryotique.
Procureur.
Juridiction.
Assignation.
Usucapitié.
Amphitryotique.
Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane.
Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, c'est donc le fil d'Ariane pour je ne sais plus la combienième émission d'ailleurs, maintenant peut-être la quatrième. Aujourd'hui, on va donc le fil d'Ariane, c'est un collectif de quatre avocates qui propose, tente en tout cas de proposer des informations pratiques sur le droit et la justice. Et aujourd'hui, l'émission, on va la consacrer au changement de statut des étudiants étrangers. Elle fait suite à la précédente qui a eu lieu il y a un mois, et donc vous pouvez éventuellement retrouver l'intégralité sur notre blog, que vous trouvez sur le site de Radio Canu. Il suffit après de chercher le fil d'Ariane. Elle est en ligne. Le changement de statut des étudiants étrangers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, en fait, ça répond à la question. Enfin, on va tenter de répondre à cette question-là, et autant dire que c'est pas très simple de savoir, que faire quand on veut rester en France, qu'on a terminé ses études et qu'on était étudiant étranger. Parce que c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, le fait d'être... normalement, le titre de séjour étudiant étranger, il a pour objet de faire des études et après de rentrer chez soi pour faire profiter le pays dont on vient des études qu'on a pu faire en France. Et il n'est pas censé donner un droit à rester ensuite. Mais il peut arriver qu'on ait envie soit qu'il y ait des éléments personnels, soit qu'on ait envie de rester en France pour y travailler parce que ça fait longtemps qu'on y habite. Et c'est la raison pour laquelle on essaye d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Donc concrètement, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut rester en France après avoir été étudiant?
Alors, lorsqu'on souhaite rester en France après les études, alors qu'on était précédemment titulaire d'un titre de séjour mention étudiant, il faut impérativement faire une démarche auprès de la préfecture. Donc c'est ce qu'on va évoquer tout le long de cette rubrique, c'est la demande de changement de statut. Pourquoi? Parce que pour séjourner régulièrement en France, on doit avoir un document qui autorise le séjour. Et ce document, en fait, il peut être soumis à plusieurs catégories de droits au séjour. Donc on ne peut pas rester avec un titre de séjour étudiant à l'issue de ses études. On doit basculer sous une autre catégorie. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'évoquer les catégories principales, en fait, qu'on peut solliciter à l'issue des études. Juste une première précision avant de commencer, c'est que tout ce qu'on va dire là pendant les 30 prochaines minutes, ça ne concerne pas les citoyens de l'Union européenne. Parce que pour ces derniers, il y a des dispositions spéciales plus favorables et c'est pas du tout les mêmes conditions. Donc première possibilité quand on souhaite basculer donc du statut étudiant à un autre statut, c'est de demander un titre de séjour qu'on appelle mention vie privée et familiale. Alors ça, c'est une catégorie qui permet de séjourner en France au regard des liens personnels et ou familiaux qu'on a tissés en France. Alors il y a deux grandes hypothèses pour ce titre de séjour mention vie privée et familiale. Premier cas, c'est ce qu'on appelle un droit au séjour automatique, j'y reviendrai. Et puis il y a les autres cas beaucoup plus larges, où en réalité c'est un ensemble de choses, différents éléments de sa vie personnelle, familiale, professionnelle, qui vont faire que tout ensemble, on va considérer que les liens tissés en France sont suffisamment forts pour justifier un droit au séjour en France, alors même qu'on ne remplirait pas les conditions donc, de délivrance d'un titre de séjour automatique. Alors, premier cas de figure, les cas de séjour, alors automatique, c'est entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est toujours soumis à des conditions, il y a encore d'autres conditions, des conditions. On va pas détailler vraiment toutes ces conditions aujourd'hui, mais simplement, en gros, ça va concerner les liens familiaux. Par exemple, mariage avec un Français, une Française, mariage avec une personne en situation régulière, avoir eu, au long de ses études, de son séjour en France, un enfant de nationalité française ou être paxé également avant quelqu'un de nationalité française. Alors, selon sa situation familiale, il y a différentes modalités et exigences, mais globalement, mais vraiment en résumé, globalement, ces situations-là familiales permettent en principe d'obtenir un titre de séjour et donc un changement de statut. S'agissant de ces titres de séjour, du coup, d'où l'importance quand on est étudiant, puisqu'on n'y pense pas forcément, on a un titre de séjour, on est autorisé à séjourner en France, à étudier, on travaille à temps partiel, comme on l'a évoqué lors de la précédente émission. Mais sachant que lorsqu'on a plus tard le projet de rester en France, il faut d'ores et déjà, durant cette période, en réalité, commencer à rassembler, constituer un dossier et garder surtout tous les documents qui seront utiles, du coup, plus tard, quand on aura terminé ses études et qu'on déposera cette demande de changement de statut à la préfecture. Notamment pour ce qui concerne les liens familiaux. Par exemple, lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, que ce soit pax, mariage ou même concubinage, bien penser à pas laisser les documents au nom d'un seul des habitants du lieu dans lequel on habite, mais bien tout de suite mettre les deux noms sur tous les documents. Donc, quittance de loyer, c'est l'idéal. Facture EDF, au téléphone, etc. Le bail. Voilà, vraiment garder tous ces documents, sachant qu'on peut être amené à en justifier sur une période qui peut aller jusqu'à un an, notamment pour les paxés, 6 mois pour les conjoints de français. il y a différentes périodes, mais en tout cas, ça peut être des périodes assez longues. Donc, bien garder tous ces documents, se constituer un petit dossier pour le après. À côté de ces cas, donc, de délivrance d'un titre de séjour par rapport aux liens familiaux, il y a tous les autres cas. Alors là, c'est beaucoup plus large et en même temps beaucoup plus compliqué, où on a le droit à quelque chose. Non pas parce qu'on remplit les conditions donc strictes prévues par la loi, mais parce que donc un ensemble d'éléments de sa vie personnelle, familiale, professionnelle font que la préfecture a la faculté de délivrer un titre de séjour. Donc elle a un pouvoir d'appréciation et il faut justifier de liens suffisamment forts en France, personnels, familiaux, pour demander ce titre de séjour. Alors concrètement, ça va par exemple être la durée de résidence, le temps passé en France, mais surtout démontrer que pendant tout ce temps passé en France, on a tissé des liens personnels forts. Réseau amical, social, des activités par exemple associatives, une insertion professionnelle, des perspectives professionnelles. Autre élément pris en compte, et tout ça cumulé, hein, pas indépendamment mais cumulé, par exemple être en couple, un concubinage stable. Démontrer donc sans pacte, sans mariage, mais avec un concubinage stable. Des enfants nés en France, pas de nationalité française, mais nés en France, scolarisés en France. Voilà, ces différents éléments en fait qui vont pouvoir amener la préfecture à considérer que ces liens sont suffisamment importants pour donner un titre de séjour. Néanmoins, deux réserves. Premièrement, c'est que c'est malheureusement compliqué. Compliqué parce qu'on est toujours dans cette logique qui a été rappelée au début, que le titre de séjour étudiant ne permet en principe pas de rester en France à l'issue des études. Et deuxième raison pour laquelle c'est assez compliqué, c'est que, comme on avait évoqué lors de la précédente émission, toutes les années de résidence passées en France avec un titre de séjour étudiant ne comptent théoriquement, juridiquement, pas. C'est des années totalement blanches, c'est comme si on n'était pas présent en France. Du coup, ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est du coup insister sur ce qui s'est passé pendant ces années de résidence, mais on n'aura aucune protection si on n'a eu qu'un titre de séjour étudiant, même si ça a duré 10 ans, par rapport à la simple durée de résidence sur le territoire français. Donc d'où l'importance de bien argumenter sur tout le reste, donc les différents éléments de sa situation personnelle. Donc pour résumer sur cette première partie, première possibilité de changement de statut titre de séjour étudiant à un autre titre de séjour, c'est par rapport aux liens personnels et familiaux tissés en France, si on est en mesure donc de justifier de ces liens, toujours même règle que d'habitude, avec des documents. Deuxième possibilité qui va être évoquée, c'est un changement de statut par le travail.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc, la deuxième possibilité, c'est effectivement de demander un titre de séjour salarié. Donc, quand on finit ses études, des personnes, les étudiants étrangers, peuvent avoir envie de rester en France pour exercer leur métier, pour exercer ce pour quoi ils ont été formés en France. Ce cas est assez particulier, c'est-à-dire qu'à la fin des études, c'est pas parce qu'on a une promesse d'embauche ou un contrat de travail qu'on peut basculer forcément sur un titre de séjour salarié. Il faut s'assurer de plusieurs choses. Il faut donc effectivement avoir une promesse d'embauche ou un contrat de travail, mais il faut également avoir un employeur qui est prêt à faire beaucoup de démarches pour soutenir la demande titre de séjour salarié. Dans ce cas-là, lorsqu'on va à la préfecture, on dépose donc une demande de titre de séjour salarié et la préfecture va transmettre le dossier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'on appelle la DIRECT. La DIRECT, elle, va exercer un contrôle sur la demande pour savoir si la personne peut bénéficier d'une autorisation de travail. Donc, titre de séjour salarié veut dire demande en amont d'une autorisation de travail. La DIRECT, elle va exercer un contrôle en trois étapes. Elle va vérifier tout d'abord la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique concernée. Elle va ensuite vérifier l'adéquation entre le travail demandé et les qualifications, l'expérience, le diplôme de la personne. Et elle va ensuite vérifier si l'entreprise qui est prête à accueillir la personne est bien dans les règles avec toute la législation du travail et la protection sociale. S'agissant donc tout d'abord de la première étape de ce contrôle, sur la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique concernée. En fait, c'est un contrôle de l'offre et de la demande. L'idée, c'est que la France va recourir à la main-d'œuvre étrangère que si l'offre de travail n'est pas satisfaite par les demandeurs d'emploi présents en France et autorisés en France. C'est-à-dire qu'on privilégie les Français et les étrangers qui sont déjà autorisés à travailler en France avant de délivrer une autorisation de travail à une personne qui avait un titre de séjour étudiant et qui veut rester travailler en France. Concrètement, un étudiant qui a passé plusieurs années en France, qui a obtenu un diplôme, par exemple, en architecture, donc il est prêt à travailler en tant qu'architecte, et ne désire pas nécessairement rentrer chez lui, en tout cas tout de suite, dans son pays d'origine, pour exercer la profession d'architecte, il va déposer une demande à la préfecture. Et ce que va faire la préfecture, donc la directe en fait, ce service qui examine l'autorisation, la demande d'autorisation de travail, va regarder si les Français et les étrangers qui ont déjà un titre de séjour, qui ont un diplôme d'architecture, qui veulent être architectes, ont déjà trouvé un emploi. C'est-à-dire que c'est que s'il y a des employeurs qui cherchent des architectes qu'elle va estimer qu'effectivement on pourrait envisager une autorisation de travail pour cet ancien étudiant étranger. Si elle voit qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a très peu d'offres, elle va a priori donner un avis défavorable à cette demande d'autorisation de travail. La directe, elle regarde donc également la qualification de la personne et les particularités de l'emploi pour lequel il y a un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Donc, elle va regarder quoi ? Elle va regarder le type de diplôme, le niveau de diplôme de la personne, l'expérience qu'elle a pu avoir dans cette branche spécifique, donc les stages, et c'est là où on conseille des attestations de stage avec des appréciations qui sont élaborées pour la personne. Ce que doit prouver, en fait, le demandeur, c'est qu'il est, a priori, le seul à pouvoir remplir toutes les conditions de cette promesse d'embauche, de ce contrat de travail. Donc, plus le métier, en fait, est spécifique, plus la personne arrive à prouver qu'elle a ses qualités spécifiques, plus elle a une chance d'obtenir cette autorisation de travail. Par exemple, si on revient à notre exemple d'architecte, l'architecte qui dit, bah voilà, cette entreprise, l'entreprise qui dit, moi, j'ai beaucoup de contrats avec le Brésil, donc j'ai besoin d'un architecte qui soit tout à fait à l'aise avec le brésilien, avec la langue brésilienne, mais aussi avec le français et aussi avec l'anglais, parce que l'anglais, c'est la langue que tout le monde doit parler. Si on a une personne qui justifie parler toutes ces langues, ça va entrer en ligne de compte et ça va être un argument de plus pour pouvoir obtenir cette autorisation de travail. Un autre point également, la directe examine la rémunération qui est proposée et généralement il faut une rémunération à peu près égale à 1,5 du SMIC. C'est encore l'idée que qu'on va accepter des personnes travaillent en France que si elles ont en fait des qualités particulières et donc souvent des emplois qui sont bien rémunérés. Enfin, donc la troisième étape, et qui est importante également, c'est le respect par l'entreprise de la législation du travail et de la protection sociale. Je dis qu'elle est importante parce que donc faut pouvoir justifier avec un document, soit de l'inspection du travail, soit d'un organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, que l'employeur respecte la réglementation. Et je dis que c'est important parce que l'employeur doit être vraiment... très clair, doit être prêt à ce que l'administration fasse des contrôles dans ses registres, fasse des contrôles dans son entreprise. J'attire juste l'attention sur le fait que, par exemple, un étudiant qui a un titre de séjour, un titre de séjour étudiant, qui faisait un stage dans cette entreprise, mais qui travaillait plus de 60% du temps du SMIC, soit plus de 964 heures par an, 964 heures réparties sur l'année. Si cette personne travaillait plus que ce temps-là, c'est-à-dire que l'employeur ne respectait pas la législation du travail. Et c'est-à-dire qu'il peut se faire rattraper ensuite lorsqu'il demande un titre de séjour salarié. Donc, il faut vraiment faire attention quand on a un titre de séjour étudiant, il faut bien respecter la législation du travail, il faut que l'employeur vraiment soit honnête et respecte cette législation du travail, parce qu'après, on peut Voilà, ça peut lui jouer des tours lorsqu'il y a une demande de changement de statut.
Ariane, des informations alors, pratiques sur le droit et la...
Alors, les principes ont été rappelés, du coup, pour demander la carte de séjour salarié. Donc, c'est trois conditions, et l'une d'entre elles, donc, qui est de justifier de la situation de l'emploi pour le métier envisagé. Par contre, donc, ça, c'était le principe, il y a une exception à cette règle, il y a même des exceptions à cette règle, donc, s'agissant du contrôle de la situation de l'emploi dans le métier dans lequel on envisage de travailler. Deux types d'exceptions, soit premièrement parce que le métier dans lequel on a une proposition d'embauche, un projet de contrat de travail, est un métier dit en tension, c'est-à-dire un métier où on considère, je cite les termes de Pôle emploi, qu'il manque de la main-d'œuvre pour remplir le poste, donc où il y a un écart important entre l'offre et la demande. Mais attention, parce que il a été rappelé la condition, le principe, pour bénéficier de cette exception, c'est pas du cas par cas, il faut que le métier dans lequel on a un projet de contrat de travail figure expressément sur une liste. Une liste qui, elle, est fixée par un arrêté, donc c'est-à-dire par une décision du ministre, qui fixe donc une liste d'emplois considérés par principe comme en tension, une liste donc par région et par emploi. La dernière liste, elle date aujourd'hui de 2008 et elle fixe donc différents métiers considérés par principe comme nécessitant des personnes pour, enfin voilà, où il y a un gros écart entre l'offre et la demande. Elle fixe une liste de 30 métiers. Alors, cette liste, cette exception, elle est intéressante du moment où on peut justifier d'un projet de contrat de travail pour un de ces métiers. Sauf que la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est que les métiers concernés, c'est vraiment des métiers très très précis et finalement assez rares, enfin difficiles en tout cas à obtenir, ou alors on est vraiment dans une situation très spécifique. Je vous donne juste deux exemples pour information, mais la liste de ces métiers, elle est disponible sur Internet. Par exemple, opérateur de formage du verre, ou alors conducteur de machines de fabrication des industries de l'ameublement pardon, et du bois et matériaux associés. Donc on est vraiment dans c'est juste deux illustrations, on est vraiment dans des métiers très très spécifiques qui permettent de déroger à ce principe général qui est qu'on doit toujours justifier au cas par cas que l'employeur a cherché à embaucher quelqu'un et que personne d'autre ne pouvait remplir le poste. Deuxième série d'exceptions, on est toujours un peu sur la même logique, mais là on rajoute un critère qui est celui de la nationalité. Ce qu'il faut savoir, et de façon générale d'ailleurs en droit des étrangers, c'est que la France, elle a signé des conventions bilatérales, donc des espèces de contrats entre gouvernements avec plusieurs États. Et dans ces conventions bilatérales, les États, la France notamment, s'engagent sur différents points. Et on a plusieurs conventions de ce type pour le droit au séjour pour les ressortissants étrangers salariés. En principe, ces conventions, donc ces accords, ils sont censés être plus favorables pour les personnes qui sont de cette nationalité. Et donc, grâce à ces textes, ces accords entre États, entre gouvernements, certains ressortissants en France vont bénéficier de droits plus importants que d'autres sur le territoire français. Donc, on a plusieurs conventions de ce type. Pour citer certaines d'entre elles, on a des conventions. Enfin, la France a signé des conventions avec le Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Congo, Gabon, Maurice, Sénégal, Tunisie, mais il y en a également d'autres. Plusieurs conventions, donc, et dans ces accords, les gouvernements entre eux, c'est réciproque, ont prévu une liste élargie de métiers considérés en tension. Donc on est toujours sur la même logique où il y a un écart important entre l'offre et la demande, mais on n'est plus sur une liste restrictive de 30 métiers, on est sur des listes, alors, soit plus restreintes, soit plus larges. Chaque nationalité a la liste qui lui correspond. Pour citer là encore des exemples qui pourront peut-être mieux parler, c'est par exemple la convention franco-sénégalaise. On a 108 métiers qui figurent sur cette liste. Donc on a plus de chances, plus de probabilités que le contrat de travail dont on bénéficie figure sur cette liste. Et en revanche, pour le Gabon, la convention franco-gabonaise, on a 9 métiers seulement sur la liste. Autre cas, mais je ne vais pas le développer parce que... parce qu'on est vraiment là sur quelque chose de très très spécifique. Il faut le savoir par contre, c'est qu'il y a un accord entre l'Union Européenne et la Turquie. Alors là, ce n'est pas la même logique. On n'est pas sur une logique de métier en tension, de situation offre-demande, mais plus sur le temps passé en France, la quantité d'années ou de mois travaillés sur le territoire français, enfin d'ailleurs l'Union Européenne, qui peut permettre de déroger donc à d'autres principes, enfin ceux qu'on a rappelés tout à l'heure, pour les ressortissants turcs. Donc, pour résumer, en principe, on doit justifier des conditions qui ont été rappelées, donc la situation de l'emploi pour le métier envisagé, c'est-à-dire que personne d'autre sur le territoire ne pourrait postuler pour le poste proposé, que son profil il est en totale adéquation avec l'emploi dans lequel on veut travailler, du fait de ses qualifications, expériences, et que l'employeur respecte la législation sociale, fiscale, etc. Et par exception seulement, on peut déroger à l'une de ces conditions, qui est celle de la situation de l'emploi, soit parce que le métier proposé, il figure sur cette fameuse liste des 30 métiers, voilà, mais vraiment une liste très précise, soit parce qu'on est ressortissant d'un pays qui a signé un accord avec la France, et que dans cet accord spécial signé avec la France, le métier dans lequel on envisage de travailler figure sur la liste donc conclue.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, ce qu'on vous conseille, donc, quand vous allez à la préfecture pour déposer un dossier, il faut que le dossier soit complet. Il faut que le dossier soit complet et il faut le déposer le plus tôt possible avant l'expiration du titre, au moins 2 mois avant. Donc 2 mois avant la fin de votre titre de séjour étudiant, il faut aller à la préfecture pour faire une nouvelle demande, changement de statut. Dans ce dossier, il y a des pièces qui sont obligatoires. Par exemple, les formulaires CERFA qui sont remplis par l'employeur et qui fait donc mention du contrat de travail, de la nature du contrat, de la convention collective applicable, de l'intitulé de l'emploi, du salaire, des avantages. Il faut également les justificatifs de l'employeur qu'il a déposé une offre sur Pôle emploi, par exemple, mais qui n'a pas trouvé de candidat à l'emploi. C'est-à-dire qu'en amont, avant le dépôt de la demande, il faut que l'employeur ait été actif et qu'il ait essayé de chercher une personne pour ce poste, mais que personne n'a répondu à son offre ou que les candidats rencontrés n'ont pas satisfait aux conditions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a bien attiré votre attention sur le fait que le soutien de l'employeur est vraiment capital dans cette demande de changement de statut. On vous conseille également d'avoir un courrier de l'employeur qui explique pourquoi vous et pas un autre correspondez à l'emploi. En plus, on vous conseille d'apporter tous les diplômes de la personne demandeur, ancien étudiant, qui puisse justifier de son expérience, également les anciens titres de séjour, et aussi, pourquoi pas, un courrier du demandeur qui explique pourquoi il veut rester en France pour pratiquer cet emploi, depuis combien d'années il est en France, quels sont aussi les liens qu'il a créés, les liens professionnels mais aussi amicaux et sociaux. Voilà, vraiment que la préfecture ait une bonne vision d'ensemble de cette personne, voir qu'elle est bien insérée en France et que son employeur a véritablement besoin de lui.
Juste une petite précision, vous avez plein d'informations sur un site internet, alors c'est la promotion du gouvernement qu'on fait, mais on peut le faire de temps en temps, qui s'appelle immigrationprofessionnelle.gouv.fr, sur lequel il y a déjà le rappel de tout ce qu'on vient de dire, et puis aussi les conventions justement entre les différents états, et des informations pratiques, qui peuvent aussi d'ailleurs être utiles à l'employeur, parce que nous souvent, voilà, il y a l'employeur qui va appeler aussi pour savoir comment je fais, ça permet d'avoir une source en plus gouvernementale, qui permet d'avoir pas mal d'informations. Après, on vous fait croire sur la photo qu'en fait c'est hyper simple, ça l'est pas du tout, mais c'est le cas.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc comme on vient de l'expliquer, c'est un peu compliqué, enfin c'est même particulièrement difficile de changer de statut quand on est étudiant étranger, notamment pour passer d'un titre étudiant à un titre salarié. Alors il se trouve qu'il y a une exception, enfin une facilité qui est donnée pour les étudiants qui sortent de master. On en avait un peu parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une mobilisation des étudiants des grandes écoles en 2012, parce que tous disaient que en fait c'est des étudiants en général qui sortent souvent avec des promesses d'embauche ou qu'on fait des stages et l'entreprise veut les garder. Et c'était à l'époque très compliqué, ça reste pas très simple, mais il y a eu une modification du coup des textes, d'abord par une circulaire et surtout ensuite par une modification de la loi qui prévoit, mais donc les conditions sont assez restrictives, que pour les étudiants qui ont fini leurs études et qui sont titulaires d'un master 2, donc du diplôme de master complet, et qui ont bien ce diplôme, c'est-à-dire qu'il est bien terminé, qu'ils ont tout validé, l'ensemble des épreuves, y compris les épreuves un peu annexes parfois, telles que le TOEIC ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a bien rempli toutes les conditions, on peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 12 mois, donc d'un an, qui n'est pas renouvelable par contre, mais qui permet pendant cette année-là de chercher du travail, et si on trouve un emploi qui est en rapport avec la qualification, donc avec le diplôme de master, et de mémoire avec une rémunération à pareil à un SMIC et demi, j'espère ne pas dire de bêtises là-dessus, à ce moment-là on peut basculer ensuite sur une carte de séjour salarié sans la question de donc l'opposition de la situation de l'emploi et l'offre et de la demande. Donc concrètement, ça permet de déroger à ce système-là qui est quand même très compliqué, et y compris pour des gens qui sont hautement qualifiés. Ça permet en fait de poursuivre finalement le cursus par une première expérience professionnelle, voire de déboucher carrément sur une embauche pérenne, ce qui permet d'éviter justement toute la difficulté qu'il y a sur la situation de l'emploi, puisque cette condition-là, enfin, je pense que vous l'avez compris, elle est extrêmement compliquée à dépasser, et c'est quand même assez rare les personnes qui arrivent à justifier de ça, sauf à... Par exemple, on parlait des questions des langues, enfin voilà, de montrer qu'on connaît vraiment des langues assez, enfin qu'on connaît plusieurs langues assez particulières. Sinon, c'est assez compliqué de les avoir. Donc, c'est assez avantageux. Bon, encore une fois, les conditions sont restrictives puisqu'il faut quand même avoir un bac plus 5. Alors, on n'est pas obligé d'avoir le diplôme au moment où on fait la demande d'autorisation provisoire de séjour. La demande, il faut la déposer juste avant l'expiration de son titre de séjour. Par contre, il faut l'obtenir, il faut avoir le diplôme le jour où on vous délivre l'autorisation. Donc concrètement, je sais que mon titre de séjour va expirer, je vais avoir mon diplôme, mais je ne l'ai pas encore complètement dans les mains. Donc je vais à la préfecture dire, voilà, je vais avoir mon diplôme bientôt, donnez-moi une autorisation provisoire de séjour, on remet un document dans l'attente d'eux, et une fois qu'on peut justifier du master, on obtient cette autorisation provisoire de séjour pour une durée de 12 mois. Par contre, à la fin des 12 mois, si la personne n'a pas trouvé de poste, ou pas de poste correspondant à ses qualifications, ou pas de poste correspondant aux critères de rémunération, à ce moment-là, c'est pas renouvelable, et on se retrouve dans la même situation qu'à la fin d'un titre de séjour étudiant, où il n'y a pas de possibilité de rester sur le territoire, à moins de justifier d'une vie privée familiale, comme on l'expliquait au tout début. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que c'est bon. Alors du coup, simplement pour rappeler, c'est que toutes ces demandes qu'on fait, soit la préfecture les accepte, soit éventuellement elle peut poser un refus. Donc c'est ce qu'on disait la dernière fois lorsqu'on était sur la question du séjour étudiant, c'est que la réponse de la préfecture, c'est une lettre, ça apparaît comme une lettre recommandée, et ça s'appelle une décision administrative qu'il faut pouvoir contester en général dans un délai de 30 jours à compter du jour où on l'a reçue. Il faut aller assez vite. Et ce qu'on propose, alors après, encore une fois, il ne s'agit pas de faire la promotion de notre métier, mais c'est qu'effectivement, un avocat, ça peut être utile dans ces cas-là, même si on peut faire un recours tout seul. Et alors, sauf exception, alors, tout dépend de la décision, mais on peut aller devant le tribunal administratif directement, ou faire ce qu'on avait expliqué la dernière fois, ce qu'on appelle un recours gracieux, c'est-à-dire écrire au préfet pour expliquer sa situation, expliquer qu'il s'est trompé, lui demander de revenir sur la décision qu'il a prise. Mais par mesure de précaution, puisque ça dépend des situations, il vaut mieux contacter soit une association, type la CIMAD par exemple, pour parler de l'association qui est sur Lyon et qui est compétente là-dessus, soit un avocat pour ça. Et donc, pour plus de détails, on vous renvoie aussi à la précédente émission qui, comme je disais tout à l'heure, est disponible sur notre blog.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Le mot qu'on comprend rien.
Alors... aujourd'hui, dans la rubrique « Le mot qu'on comprend rien », on va vous expliquer ce que c'est qu'une circulaire. Un mot qu'on entend assez souvent, qu'on croit assez souvent comprendre, mais qui a quelques subtilités. Une circulaire, c'est un texte qui permet à des chefs de service d'expliquer une loi, un règlement, toute réglementation, à leurs services et aux administrés. C'est donc, en d'autres termes, une mise en application, un mode d'emploi d'une réglementation. Mais ce qui est un peu compliqué avec la circulaire, c'est que ça n'a pas de valeur normative. de valeur normative. Ce qui signifie, en fait, que nous, on ne peut pas l'opposer devant le juge. Le juge, il ne retient pas l'existence d'une circulaire. Il va retenir la loi, le règlement, mais pas la circulaire. Par exemple, on nous parle souvent de la circulaire Valls, qui est assez connue, de 2012, qui explique que au bout de 5 années de présence en France, avec des enfants qui sont scolarisés depuis 3 ans, ces personnes-là peuvent déposer un dossier de demande de titre de séjour. Mais cette circulaire, elle permet en fait à ces personnes de déposer plus facilement une demande de titre de séjour. Elle demande aux administrations d'être bienveillants avec ces demandes-là. Mais s'il y a un refus, la personne ne peut pas invoquer, ne peut pas dire « mais je ne comprends pas, la circulaire n'a pas été appliquée ». On n'applique pas une circulaire, c'est un mode d'emploi, on s'en sert pour essayer de comprendre la loi, pour essayer de comprendre des règlements. Le titre de séjour, par exemple, vie privée et familiale, ne donne pas aucune indication sur le nombre d'années de présence qu'il faut en France pour pouvoir justifier de sa vie privée et familiale. La circulaire, elle dit, voilà, à partir de 5 ans, on considère qu'il y a une vie privée familiale en France. Mais parfois, la préfecture, elle va attendre 7 ans, 8 ans, 10 ans pour délivrer un titre de séjour. Voilà, on voulait vous dire que la circulaire, c'est très utile, mais ça peut être aussi assez trompeur.
Voilà, du coup, c'était la fin de cette émission. Simplement pour dire que la prochaine, elle aura lieu le mercredi 24 juin et qu'elle aura pour thème la garde à vue. Voilà, donc on va changer un peu de sujet, un peu de domaine, et on essaiera d'être pratico-pratique sur cette question-là aussi.
Eh bien, bonne soirée, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Situation de la famille qui justifie qu'on revienne devant le juge pour présenter ces choses-là.
Et on va finir avec notre petite rubrique du mot rigolo, le mot juridique rigolo. Alors aujourd'hui, on n'a pas parlé de